Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La France a tout pour réussir. Émission spéciale depuis la 8e conférence globale sur l'efficacité énergétique. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et vous le voyez, bien, nous sommes ici au Palais des Congrès de Versailles à l'occasion de la 8e édition de la conférence globale annuelle sur l'efficacité énergétique. Cette année, c'est donc en France que se tient cet événement majeur qui rassemble des entreprises, des décideurs, des ministres également pour faire un point sur les objectifs et les stratégies qui améliorent l'efficacité énergétique de toutes nos activités. Pour en parler donc dans cette première partie de l'émission, autour de moi, trois invités. Tout d'abord, Mathieu Prin, qui représente l'IEA, l'AIE en français, l'Agence internationale de l'énergie, qui organise chaque année cet événement. Et puis, me rejoindra dans quelques instants, donc sur ce plateau, Laurent Bataille, c'est le président de Schneider Electric France. Schneider Electric, un des géants mondiaux qui accompagne les entreprises dans leur développement durable et pour leur efficacité énergétique. Schneider Electric qui est également le co-organisateur de cette édition 2023 de la conférence globale. Et parmi les très nombreuses entreprises accompagnées par Schneider Electric, eh bien figure Plastic Omnium, un des leaders mondiaux de l'équipement automobile. On parlera donc de la stratégie de neutralité carbone de Plastic Omnium avec son directeur du développement durable et des ressources humaines, David Meneses, qui est également à mes côtés. Et dans la deuxième partie de l'émission, à partir de 14h, eh bien je recevrai également Jean-Baptiste Lucas, qui est le directeur général de McPhy, un de nos champions français de l'hydrogène. Je recevrai aussi Cindy Lyotard du CEA pour nous parler de l'importance de la recherche publique dans l'innovation et dans la création d'outils en faveur de la décarbonation. Et tout d'abord, donc, ce programme, vous le voyez, est absolument très chargé. On va commencer donc avec l'IEA, l'AIE en français, l'Agence internationale de l'énergie. Bonjour Mathieu Prin.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur du programme efficacité énergétique, notamment pour les pays émergents, au nom donc de l'IEA, de l'AIE. D'abord, quelques chiffres clés. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde dans notre dos. Combien de participants pour cette édition 2023?
Oui, effectivement, on a 700 participants qui participent à cette conférence. On a des représentants des gouvernements de à peu près 100 pays qui sont présents ici avec nous à Versailles, 30 ministres, 40 PDG, des entrepreneurs. Donc c'est vraiment la conférence la plus importante qu'on ait organisée sur ce sujet depuis qu'on l'organise depuis 2016.
C'est une montée en puissance pour cet événement. C'est une année encore plus forte que les autres.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une crise énergétique comme on n'en avait jamais connu l'année dernière, qui a eu des impacts notamment sur le déploiement des politiques publiques en termes d'efficacité énergétique. Il y a des pays qui représentent à peu près 70% de l'économie de l'énergie mondiale qui ont eu en place des stratégies axées sur l'efficacité énergétique. Donc cette conférence est vraiment une opportunité de tirer les leçons de toutes ces politiques qui ont été mises en place, pour tous ces intervenants, tous ces participants, d'apprendre les uns des autres de ces politiques, d'échanger des bonnes pratiques et évidemment d'accélérer l'ambition sur l'efficacité énergétique.
Est-ce qu'il y a un thème à cette édition de 2023, des questions, des thèmes que vous avez souhaité mettre en avant?
Le thème qu'on a vraiment souhaité mettre en avant, c'est justement tirer les leçons de cette crise énergétique. Comme je le disais, cette crise énergétique, c'est une crise énergétique inédite qu'on a vécue l'année dernière. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là-dessus pour y répondre. Ce qu'on sait, c'est que évidemment l'Europe en était victime, mais le monde en développement a été encore plus victime de cette crise. Il y a eu des prix très élevés de l'énergie, notamment dans les pays émergents. Donc des prix très élevés, une inflation, une crise alimentaire qui ont touché des populations qui étaient déjà fragiles. En Afrique, il y a plus de 20 millions de personnes qui n'ont plus accès à l'électricité maintenant. Et puis ça a été aussi une piqûre de rappel pour les pays du monde entier qui n'y a pas d'île énergétique, on a des risques considérables que l'on court si l'on dépend de foyers spécifiques pour une ressource en énergie comme le gaz russe en Europe. Et donc même si les prix de l'énergie ne sont pas ceux qu'ils étaient il y a quelques mois,
ça reste encore un vrai sujet.
Ça reste un vrai sujet, l'énergie.
On reparle de tout ça dans un instant. Je salue Laurent Bataille qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Schneider Electric France. Je le disais dans le sommaire. On parlait à l'instant avec Mathieu Prin du succès de cette édition, succès qualitatif et quantitatif, beaucoup de monde présent. Le co-organisateur que vous êtes doit être satisfait.
Oui, tout à fait. Alors après, il y a une question de contexte. C'est clair que depuis la dernière édition, en un an, beaucoup de choses ont changé en termes de prise de conscience de l'importance de l'efficacité énergétique.
Et cette efficacité, elle est en amélioration. Vous avez donné dans la matinée quelques chiffres donc au nom de l'AIE. Je crois qu'en termes d'investissement, on parle évidemment de milliards de dollars au niveau de la planète. Les investissements sont à un bon niveau. Quels sont les objectifs pour 2023, ceux que vous avez annoncés dans la matinée?
On a eu effectivement une très bonne nouvelle l'année dernière en 2022 avec 560 milliards d'investissements dans l'efficacité énergétique.
Et c'est encore mieux.
Oui, ça représentait une augmentation de 16%. Cependant, cette année, l'augmentation dans les investissements est de 4%, donc elle n'est pas aussi forte. C'est à peu près 622 millions de dollars, ouais. Milliards de dollars. Ce que nous, en tout cas, ce que l'AIE, ce qu'on appelle, c'est de tripler ces investissements d'ici 2030 pour ne pas dépasser le seuil de 1,5 degré du réchauffement de la planète, ce qui représente 1,8 billion de dollars d'investissement en 2030.
Alors, c'est notre objectif. Alors, c'était plus 16% en 2022, c'est plus 4%. Pourquoi ce ralentissement de la progression? Selon
peut-être
vous.
Parce qu'il y a un petit peu moins d'attention qui sont mises sur le sujet. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de politiques d'investissement, notamment il y a eu des pas dans la bonne direction, mettons, sur la vente de véhicules électriques. Maintenant, on sait que d'ici 2030, il y aura un véhicule sur deux, que ce soit en Chine, en Union européenne ou aux États-Unis, qui serait électrique. L'année dernière, en France, il y a eu plus de ventes de pompes à chaleur que de chaleur au fuel. Mm-hmm. Cependant, effectivement, on voit un certain ralentissement, surtout dans le secteur du bâtiment, effectivement, où là, les chiffres restent stables. En ce moment, au niveau de l'Europe, il y a seulement 1% du parc immobilier qui est rénové chaque année. Et donc là, il faut vraiment tripler les investissements là-dessus pour rénover trois fois plus de bâtiments par an.
Pourquoi cette édition en France? L'année dernière, vous étiez au Danemark, il y a eu plusieurs pays. Il y a même eu une édition en ligne, évidemment, c'était pendant la pandémie. Pourquoi cette édition en France? Et je complète ma question. Est-ce que la France est un bon élève dans les objectifs dont vous nous parliez à l'instant, Mathieu?
Oui, déjà, on remercie le ministère de la Transition énergétique et la ministre, Mme Agnès Pannier-Runacher, de co-organiser avec nous cette conférence. En France, il y a une véritable ambition en termes d'efficacité énergétique. Il y a beaucoup de politiques qui ont été mises en place en France ces dernières années, que ça soit dans l'aide aux consommateurs pour la rénovation des bâtiments, pour la sortie du chauffage au fuel par les pompes à chaleur, également le soutien aux industries vertes et la création d'industries vertes liées à l'efficacité énergétique.
Et le projet de loi qui a été présenté il y a quelques jours par Bruno Le Maire.
Récemment, exactement, des crédits d'impôt pour la décarbonation de l'industrie existante sur le sol français. Donc, effectivement, la France est un très bon élève. Ça n'empêche pas que la France, comme tous les pays du monde, il faut aller encore plus loin. Il faut encore améliorer nos capacités en efficacité énergétique et doubler nos programmes d'efficacité énergétique d'ici 2030.
Et quand je vous écoute, ça veut dire que toute bonne politique, enfin, ça ne passe que par l'aide publique ou en tout cas l'impulsion gouvernementale. Est-ce que c'est pour vous la clé de la réussite de l'amélioration de l'efficacité énergétique? Que les États soient moteurs et même fassent des incitations pour que les industries et les particuliers suivent?
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait qu'un petit peu d'argent de l'État peut vraiment stimuler le secteur privé. Évidemment, le secteur privé a un rôle extrêmement important à jouer là-dessus. Et il y a également aussi le rôle de l'État à sensibiliser les consommateurs. On sait que depuis le début de la crise énergétique, il y a 25 pays qui ont mis en place des campagnes de sensibilisation des consommateurs. Donc tout le monde a vraiment un rôle à jouer là-dessus.
Laurent Bataille, ce rôle de l'État, ce rôle des pouvoirs publics dans l'incitation des entreprises privées, vous jugez que c'est indispensable également?
Il est indispensable et puis il est protéiforme, on va dire, parce qu'il y a un besoin d'éducation, on en a parlé, créer la connaissance d'un certain nombre des solutions. Il y a un deuxième besoin qui est effectivement pour certains marchés, en particulier immatures, qui est de les accélérer. Ça a été le cas, par exemple, au début du véhicule électrique. Il faut créer des incentives, des incitations pour que les acteurs privés se lancent. Et puis après, il y a la régulation. Voilà, quand on, par exemple, développe en France de l'acier sans carbone, du béton sans carbone, il faut s'assurer que les industriels aient suffisamment de visibilité sur les conditions de vente de ces produits par rapport à des produits qui sont avec carbone.
Et il faut que les règles soient les mêmes pour tous les pays. C'est cette fameuse distorsion que de nombreux industriels français dont ils se plaignent. Ils disent nous on veut bien jouer le jeu de la France, de l'Europe, mais il faut que ce soit les mêmes règles pour tout le monde.
Alors c'est souvent le risque. Et effectivement, ça se joue beaucoup au niveau de l'Europe, hein, pour des raisons de marché, versus les États-Unis ou la Chine. Mais c'est important d'avoir cette clarté des normes, des standards et des règles.
Sur ce soutien, je vous donne la parole, David Ménesset. Sur ce soutien, cette impulsion de l'État, est-ce que pour vous, en tant que représentant, en tant que directeur du développement durable de plastique Omnium, c'est aussi un point capital pour que nos industries, nos entreprises aillent dans cette bonne direction?
Alors oui, c'est clairement un point important pour faire avancer l'industrie automobile, l'industrie de la mobilité. On en a parlé auparavant, obtenu par exemple des financements pour pouvoir construire une usine.
Votre cas, vous, à Compiègne, je crois.
Absolument, dans la région de Compiègne, pour pouvoir produire des réservoirs hydrogène. Donc on a pu bénéficier d'un IPCEI. En même temps, je crois qu'il est important de la part des pouvoirs publics de fixer des règles en termes de réduction, par exemple, de l'empreinte carbone. Mais de laisser les industriels choisir les technologies et les méthodes pour arriver à atteindre ces objectifs. Hein. On a beaucoup poussé en Europe sur la voiture électrique, alors que l'objectif principal, c'est de réduire les émissions de CO2 et d'atteindre la neutralité carbone le plus vite possible. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une tension qui se crée entre l'offre de véhicules électriques et la demande, parce que un véhicule électrique, ça coûte plus cher. On n'est pas encore certain de l'empreinte carbone de ce véhicule électrique, etc. Donc là aussi, je pense qu'il y a besoin d'un dialogue entre les pouvoirs publics et les industriels.
Et avec le risque que ce soit les Chinois qui prennent les parts de marché.
Absolument.
Je reviens vers vous sur la globalisation. Donc là, on a beaucoup parlé de la France. On se rend compte qu'il y a de nombreux plans. Donc on a parlé des plans français. Il y a aussi un plan au niveau européen. Il y a bien sûr l'IRA américain. Il y a plein de pays dans le monde qui se lancent dans des plans globaux avec à la clé souvent des milliards de dollars. Est-ce que vous trouvez, vous, en tant que représentant de l'Agence de l'énergie, que ça va dans le bon sens?
Oui, ça va vraiment dans le bon sens. Cependant, ce qu'on est, c'est qu'il faut quand même vraiment encore accélérer l'action là-dessus. Il faut aller beaucoup plus vite, que ça soit dans les investissements, que ça soit exactement dans l'accompagnement des consommateurs dans la réduction d'énergie. Et nous, notre appel au gouvernement, l'AIE, est de doubler nos progrès en efficacité énergétique d'ici 2030 et de tripler nos investissements en efficacité énergétique d'ici 2030 si on veut rester sous le seuil de 1,5 degré du réchauffement de la planète.
Et quel que soit le contexte, évidemment, donc le contexte de 2022 avait été marqué par la crise en Ukraine, donc le renchérissement du coût de l'énergie, des matières premières, ça a l'air de se calmer un tout petit peu. Quel que soit le contexte, on garde les mêmes objectifs ou est-ce qu'on peut s'adapter?
Enfin, effectivement, l'année dernière, c'était une situation inédite, mais on a eu aussi un contexte assez favorable. Il y a une demande de l'énergie en Chine
qui
devait faire face au Covid, qui est repartie. On a une météo assez clémente. Maintenant, on ne sait pas de quoi l'hiver prochain va être fait. Donc, c'est vraiment important de continuer l'accélération de nos progrès en efficacité énergétique pour pouvoir créer des économies beaucoup plus résilientes et beaucoup plus aptes à faire face aux chocs auxquels on pourrait être confronté dans les mois et les années à venir.
Vous êtes un spécialiste des pays émergents. Est-ce que les pays émergents ont les reins assez solides, ont les capacités, comme les pays d'Europe par exemple, ou les États-Unis, à suivre le même rythme? Est-ce qu'il ne faut pas un peu adapter les ciblages et les objectifs en fonction des capacités de chaque pays?
C'est sûr que tous les pays n'ont pas les mêmes muscles, que ce soit financiers, les muscles énergétiques ou les muscles technologiques, pour pouvoir répondre à cette question. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie question ici de leadership des pays développés dans l'aide à ces pays en développement, que ce soit une aide financière ou même en termes de transfert de technologies et d'informations, de bonnes pratiques. Et ça, c'est un travail sur lequel on travaille beaucoup à l'AIE.
On le voit donc, il y a beaucoup de grands groupes présents. Pour vous, je rappelle que Schneider Electric est co-organisateur de cet événement. Il y a CMA, CGM, Nexity, Orange, etc. Plastic Omnium, évidemment. Est-ce que c'est important que les grands groupes soient aussi moteurs et soient aussi peut-être des exemples pour les ETI et les autres entreprises de taille un peu moindre?
C'est très important parce que au fond, les grands groupes sont aussi chefs de file d'une filière. J'en discutais justement avec Plastic Omnium ce matin, qui a 20 000 fournisseurs. Et quand Plastic Omnium travaille sur un plan d'efficacité énergétique, ça va aussi cascader vers ses fournisseurs. Chez Schneider, on fait la même chose. On a pris un engagement que nos 1000 principaux fournisseurs, à horizon 2025, allaient diviser par deux leurs émissions de CO2. Et c'est nous qui les accompagnons dans cette transition. Donc on voit des effets induits qui sont très importants.
Parce que seul, on ne peut pas être le maillon d'une chaîne qui fonctionne seul. C'est une chaîne et chaque maillon doit être vertueux pour que la vertu soit la plus grande possible.
Oui, puis c'est important comme on est en train de développer tout ce travail d'efficacité énergétique et je dirais de façon plus large de décarbonation de notre économie, que les entreprises les plus avancées sur le sujet aient un effet d'entraînement sur les autres. On n'a pas de temps à perdre. Et ça, je pense que ce sentiment d'urgence, hein, qui se traduit par la volonté de tripler les investissements en efficacité énergétique dès maintenant, ce sentiment d'urgence, il faut qu'on le partage.
Alors vous, chez Schneider Electric, vous en êtes où de vos objectifs? Ils sont fixés à quel niveau, que ce oui. soit au niveau monde ou au niveau France? Je ne sais pas si c'est les mêmes. Et surtout, est-ce que vous êtes dans la bonne trajectoire et dans le bon tempo?
Alors je pense que comme beaucoup d'autres entreprises avec une échelle mondiale, nos entreprises sont mondiaux puisque de toute façon, cette question du changement climatique, elle ne s'arrête pas aux frontières.
C'est donc, comme le nuage de Tchernobyl, hein, ça ne s'arrête pas aux frontières.
Donc nous, effectivement, notre objectif, c'est de travailler sur la neutralité carbone de l'ensemble de nos opérations. Alors ça va se faire en plusieurs stades. D'abord, il y a nos opérations à nous, c'est-à-dire nos usines, nos bâtiments, nos process industriels, sur lesquels on veut atteindre la neutralité carbone avec compensation en 2025, sans compensation, donc neutralité carbone, ouais. sans compensation en 2030. Et puis ensuite, avec le reste de notre écosystème, c'est-à-dire nos fournisseurs qui nous apportent des composants qu'on incorpore ouais. dans nos solutions et nos produits. Là, la neutralité carbone sans compensation sera en 2050. Donc on voit qu'on a différentes étapes majeures devant nous.
Et c'est ce que vous appelez voilà, les scopes, qu'on fasse un peu de pédagogie, scope 1, scope 2, scope 3 amont. Ouais, Aval, rappelez-nous les grands.
Alors je vous rappelle, scopes, quoi, voilà. Donc scope 1 et 2, c'est effectivement les opérations propres d'une entreprise, donc son utilisation par exemple de véhicules dans les flottes qu'on utilise pour ouais. nos salariés. Qu'on est en train d'électrifier, également notre utilisation d'énergie dans nos propres usines. Donc là, on est en train d'électrifier un certain nombre de process qui utilisaient encore du gaz dans les processus de peinture, par Absolument. Exemple. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle scope 1 et 2, que j'appelle nos opérations propres.
Propre, ouais.
Et puis après, on a le scope 3, qui est vraiment les effets induits de l'entreprise en amont. Et donc là, c'est tout l'ensemble de nos fournisseurs.
Et si on s'en tient donc à votre scope, enfin à oui. vos scopes, les 1, 2, est-ce que, encore une fois, vous êtes sur la... est-ce que vous respectez le calendrier, le timing que vous êtes fixé?
Oui, alors on vient déjà d'une histoire où on a, on va appeler ça un track record, hein, on a réalisé beaucoup de choses dans les dernières années. En fait, tous les 3 ans, on déploie un plan additionnel d'efficacité énergétique de 10% par période de 3 ans. Et ça fait 12 ans qu'on le fait.
Et hein. y compris l'année 2022 et ses particularités alors, avec la géopolitique et la crise de l'énergie.
En 2022, on sortait d'un plan de 3 ans à moins 10% et on s'est voté un plan de moins 10% sur l'hiver. On a fait en France moins 14% de consommation énergétique entre l'électricité et le gaz, en particulier avec beaucoup de focalisation avec nos employés sur le plan de sobriété. Donc on voit que même... En tant que praticien de cette efficacité énergétique depuis longtemps, on a encore des gisements qui sont majeurs.
Alors j'ai bien compris que vous aviez une stratégie globalisée, mais vous représentez la oui. France. Est-ce que la France est dans le groupe Schneider Electric un des meilleurs élèves ou pas d'ailleurs de la stratégie globale de Schneider Electric?
Oui, alors c'est un très bon élève. Et nous, on a de toute façon cette motivation en France de montrer le chemin pour d'autres pays. À la fois parce qu'on a beaucoup de nos usines en France.
Oui. Donc Combien
le fait qu'on a à peu près une trentaine de sites en France. D'accord. Donc le fait qu'on les électrifie, le fait que par exemple on les équipe de panneaux solaires pour pousser de l'autoconsommation sur ouais. une partie de nos besoins, le fait qu'on ait déployé nos plateformes digitales pour économiser de l'énergie, pour nous c'est très important. C'est aussi une façon d'expliquer l'ensemble de ces solutions à nos clients, de le faire in situ. ce qui est à la fois plus facile à comprendre et puis plus convaincant que simplement en l'expliquant.
Et ça passe entre autres par votre site de Grenoble, Intensity. Oui. Est-ce que vous le considérez comme un des bâtiments les plus performants de votre groupe et peut-être, et comme vous le disiez, une vitrine, un exemple?
Oui, alors probablement d'ailleurs un des plus performants du monde, puisque ce bâtiment-là, en termes d'utilisation d'énergie brute, on est à 37 kWh par mètre carré par an, ce qui est à peu près un dixième de la moyenne des bâtiments tertiaires européens. Mais en plus de ça, il va produire sa propre électricité avec des panneaux solaires et également, on a deux centrales éoliennes, ce qui fait qu'il va produire en année pleine plus d'électricité qu'il n'en consomme.
Alors ça passe aussi quand on est un grand groupe comme le vôtre par des programmes, par des plans. Moi j'ai vu des programmes avec de jolis slogans, j'ai vu Life is On qui je crois a été créé en 2015 et puis j'ai vu aussi le plan Sustainability Impact 2021-2025. Oui. Parlez-nous de ces deux programmes, de ces deux slogans, mais derrière ces slogans il y a des programmes et des engagements.
Alors on va dire que de toute façon nous sur nos engagements pour le développement durable, on a démarré vers 2005 puisque c'était les premiers plans qu'on a mis en œuvre, qu'on a depuis raffiné, étendu. Aujourd'hui c'est un périmètre qui est assez large puisqu'on parle effectivement de développement durable sur l'efficacité énergétique mais sur d'autres paramètres. Par exemple on travaille beaucoup sur la diversité et donc la féminisation de nos équipes. Maintenant, ces programmes sont généralement des programmes de 3 ans, parfois 4. Quand il y a eu Covid, on est plutôt rentré sur une approche qui nous a amené jusqu'en 2025. Une des raisons pour lesquelles on s'engage et qui rend ces programmes très opérationnels, c'est que l'ensemble de notre management a ça dans ses objectifs. Pour nous, c'est comme des objectifs,
c'est la feuille de route,
de performance, d'activité business. Fondamentalement, ça fait partie de notre feuille de route.
Et je sors un peu de notre thème, mais je pense que c'est aussi un critère, un argument de recrutement. On en parlera après avec le directeur des ressources humaines que vous êtes, mais les jeunes générations ont besoin de ces engagements pour entrer dans vos entreprises.
Entièrement d'accord. Et ils ont besoin de voir que nos engagements annoncés sont réels aussi. C'est là qu'on voit beaucoup de débats autour parfois de la différence entre le message et la réalité. Nous, je dirais, chez Schneider, aujourd'hui, on a cette chance que de toute façon, l'efficacité énergétique et l'accompagnement dans le développement durable de nos clients, c'est notre métier. Et c'est vrai que ça nous rend attractifs. On accueille à peu près entre 1600 et 1700 stagiaires et apprentis par an en France.
Et ils ont besoin de sens.
Voilà, donc on a cette aussi chance d'avoir une attractivité sur le cœur de notre métier.
On en vient au Scope 3, on revient donc au Scope 3 donc, et à ce partenariat qui a été mis en place, je crois que c'était en 2022, depuis 2022, absolument, entre Schneider Electric et Plastic Omnium. Rappelez-nous donc le rôle de Schneider Electric dans l'accompagnement qui est le vôtre dans vos objectifs de développement durable et de neutralité carbone.
Oui, alors déjà pour commencer, je voudrais rappeler un peu la feuille de route de neutralité carbone. Donc pour Plastic Omnium, un acteur de la mobilité durable, il était important d'agir sur l'empreinte carbone. Mais un peu comme Schneider, on a commencé il y a très longtemps déjà. C'est-à-dire que si on prend, je dirais, l'ADN même de Plastic Omnium, quand on a créé Plastic Omnium en 1946,
la famille Burel,
on a
déjà
développé des plastiques pour alléger, pour améliorer l'aérodynamisme, pour améliorer la sécurité. Et c'est ce qui a fait, je dirais, le succès du groupe. Et puis en 2005-2006, on a mis en place le programme Top Planet, déjà à l'époque, pour agir sur l'efficacité énergétique des sites, en partageant des bonnes pratiques entre les usines, pour être sûr qu'on avait partout dans le monde les meilleures pratiques possibles en termes de consommation d'énergie de nos assets. Et donc, ce qu'on a fait en 2021, ça a été d'accélérer ce programme en mettant en place une feuille de route de neutralité carbone, en agissant sur les scopes 1, 2 et 3. Et comme Schneider, on a commencé d'abord par le scope 1 et le scope 2 parce que
c'est vos scopes, voilà, c'est votre périmètre,
c'est notre responsabilité. Donc on a commencé par ça et tout comme Schneider, on a dit en 2025, on sera neutre dans nos sites en termes de scope 1 et de scope 2. Comment on l'a fait ? D'abord en réduisant la consommation d'énergie, parce que le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et donc vraiment en allant encore chercher des pourcents supplémentaires d'efficacité énergétique, et c'est là en partie où Schneider intervient. et puis également en verdissant l'électricité qu'on achète pour nos usines. Alors ça passe soit par des installations sur site. On a maintenant une vingtaine de sites chez Plasticom qui sont équipés de panneaux solaires sur les toits ou d'éoliennes dans l'enceinte même de l'usine. Et puis on a aussi des contrats qu'on signe avec des développeurs pour nous fournir de l'énergie renouvelable en grand volume et sur la durée. Typiquement en France, on a déjà sécurisé pratiquement 50% de notre consommation d'électricité en électricité renouvelable.
Et le bilan de ce diagnostic, puis de ces conseils de l'établissement et de l'exécution de la feuille de route de cette, ce partenariat donc avec Schneider Electric, il est positif. Vous êtes en retard, vous êtes en avance, vous en êtes où ?
On est en avance. Hein. Si on regarde l'efficacité énergétique, par exemple, on avait annoncé qu'entre 2019 et 2025, on réduirait la consommation d'énergie de 12%. Et sur l'année 2022 uniquement, on a amélioré l'efficacité énergétique déjà de 10%, ce qui est énorme, hein, sachant qu'encore une fois, on a des programmes en place depuis bientôt 20 ans. Donc on a encore réussi à aller chercher ces pourcents supplémentaires. Sur le verdissement aussi de notre consommation d'électricité, hein, là aussi environ 10% d'amélioration de l'empreinte carbone par kilowattheure consommé. Et au total, en termes de réduction du scope 1 et du scope 2, on a atteint en 2022 9% par rapport à 2021. Et depuis 2019, qui est notre année de référence, hein, juste avant la crise du Covid, on a atteint une réduction de 26%.
Et puis un mot donc aussi sur l'accélération qui est celle de Plastic Omnium sur l'hydrogène. C'est vrai, c'est quelque chose vraiment sur lequel vous investissez beaucoup. Vous avez même créé une branche qui s'appelle New Energies en 2022. C'est important d'aller donc à la fois vers ces nouvelles branches. Donc il y a l'hydrogène, il y a l'électricité et puis l'éclairage, hein, je crois aussi.
Absolument. Alors pourquoi l'hydrogène, pourquoi la batterie? On a parlé de scope 3 tout à l'heure et Laurent parlait du scope 3 amont. Il y a aussi le scope 3 aval qui est finalement l'impact de nos produits pendant la durée de vie des véhicules. Si un véhicule consomme un carburant fossile, il a une empreinte carbone pendant sa durée de vie et donc nous on prend une part de ces émissions quand on vend des produits aux constructeurs. Si maintenant vous avez une utilisation des véhicules qui est décarbonée, le scope 3 de facto réduit et donc on a tout intérêt à aller vers des mobilités décarbonées. Et donc chez Plastic Omnium, on a démarré très tôt hein, puisque on s'est lancé dans l'hydrogène en 2015. On a déjà investi plus de 400 millions d'euros dans l'hydrogène. On vise d'ici à 2030 un chiffre d'affaires de 3 milliards par an, aussi bien sur les réservoirs hydrogène que sur les piles à combustible ou sur les systèmes complets hydrogène. À date, on a déjà un portefeuille de signature de 4 milliards d'euros. Donc c'est très significatif. Hein. On est clairement en avance sur la partie prise de commande par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. Et donc on est assez confiant dans notre cible 2030.
Et votre objectif voilà, de chiffre d'affaires pour 2030, je crois qu'il est de 15 milliards. Mais parmi ces 15 milliards, la structure de ce chiffre, elle est en pleine évolution et justement ces nouveautés, ces nouveaux périmètres vont compter beaucoup dans votre chiffre d'affaires.
Oui, absolument. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires d'environ 9,5 milliards à fin 2022 et donc sur les 15 milliards qu'on prévoit en 2030, 40% viendront d'activités qu'on n'avait pas encore dans notre portefeuille il y a un an. Donc on a parlé de l'hydrogène et des 3 milliards de l'hydrogène, mais c'est également la batterie. On a racheté l'année dernière une entreprise qui s'appelle Actia Power. Développe des batteries et des systèmes d'électrification pour les poids lourds et qu'on cherche également à étendre sur les véhicules légers. Et puis on a fait des grosses acquisitions dans l'éclairage pour un chiffre d'affaires moyen d'un milliard d'euros. Et tout ça, c'est aussi pour prendre en compte le fait que, comme on l'a dit, hein, la mobilité se transforme. On est beaucoup moins en mesure qu'auparavant de prédire quels vont être les volumes de production de véhicules. Et donc, si on ne peut plus bâtir la croissance sur les volumes, il faut la bâtir sur la valeur. Et de toute façon, l'intention de la décarbonation, c'est aussi ça. C'est de se dire, il ne s'agit plus de croître à l'infini en volume, mais de croître en valeur. Et donc, apporter plus de contenu dans les véhicules, c'est important.
Et je précise qu'on reparlera de l'hydrogène dans quelques instants, puisque nous serons avec le directeur général de McPhin, un grand nom de l'hydrogène en France. Je me retourne vers vous, Mathieu Prin. Quand on écoute les témoignages de ces deux grands groupes privés français, mais globalisés, on a l'impression qu'il n'y a que de la vertu. Est-ce que vous nuancez un peu ça? Est-ce que les feuilles de bonnes pratiques que vous mettez en place, d'ailleurs, à l'AIE, elles vous semblent bien appliquées par les groupes français, mais par les autres aussi, bien sûr?
Non, elles le sont, mais une fois de plus, il faut encore aller encore plus vite. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une accélération de ces progrès en termes d'efficacité énergétique de la part du secteur privé comme du secteur public, des politiques fortes et des investissements.
Est-ce que, messieurs, ça va être le mot de la fin de ce premier plateau? Est-ce que vous êtes prêts à aller encore plus vite? On a vu que vous faisiez déjà beaucoup. L'Agence internationale de l'énergie vous demande d'aller encore plus loin. Est-ce que vous allez le faire?
Ils ont raison. Nous, on en est convaincus. Je pense que David et Plasticomium en sont également convaincus. La réalité, c'est qu'il faut énormément de détermination. Il ne faut pas se poser beaucoup de questions parce que les solutions, elles sont là. On n'a pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment le faire à une grande échelle et dès maintenant.
On ira plus vite chez Plasticomium aussi.
Oui, ce qui est important, hein, sur la partie de nos opérations, je crois qu'encore une fois, on est en ordre de marche et on va atteindre nos objectifs sans problème. Maintenant, ce qui est important, c'est d'embarquer la chaîne de valeur, travailler avec nos fournisseurs. Certains sont beaucoup plus petits que nous, ont beaucoup moins de moyens et donc on doit les accompagner, on doit les former, on doit déjà les aider à juste quantifier leur empreinte carbone et voir comment ils peuvent agir sur cette empreinte carbone. Donc c'est important qu'on travaille en groupe, par filière ou interfilière également, comme on l'a fait avec Schneider.
Merci beaucoup, messieurs, de votre participation. Un tout dernier mot de ce premier plateau avec vous, Mathieu Prin. Une annonce, là, donc, on est en France pour l'édition 2023. Est-ce que la 2024 est déjà dans les tuyaux et où se passera-t-elle?
C'est une très bonne nouvelle. On a appris ce matin que la prochaine conférence serait au Kenya l'année prochaine. Donc ça, c'est extrêmement important parce que les pays émergents et les pays en voie de développement sont très importants pour l'efficacité énergétique. C'est eux qui vont recevoir l'essentiel de la croissance démographique dans les années à venir. Si vous prenez l'Afrique et l'Inde, il va y avoir 100 milliards de mètres carrés de bâtiments qui vont être construits dans les 30 années à venir dans ces pays-là. La climatisation qui représente la plus grosse demande en énergie dans les années à venir est très importante dans ces pays avec une classe moyenne émergente qui va acheter une clim. Il y aura 10 clims qui vont être vendus toutes les secondes dans les 50 années à venir. Et on sait aussi que le climatisateur moyen sur le marché est deux fois moins efficace que le climatisateur le plus efficace.
Donc
de gros enjeux en termes d'efficacité énergétique. Et on espère que cette conférence pourra justement accélérer l'ambition dans la matière.
Rendez-vous donc en juin 2024 pour la 9e édition. Ce sera au Kenya. L'annonce vient d'être faite sur BFM Business. Pour l'instant, on va se concentrer. Dans quelques instants, on se retrouve toujours en direct ici du Palais des Congrès de Versailles. On va se concentrer sur cette 8e édition avec deux autres invités. Jean-Baptiste Lucas, le directeur général de McPhy. On est donc là dans l'hydrogène. On en parlait à l'instant. Puis on parlera aussi de l'importance de la recherche publique dans les solutions pour améliorer l'efficacité énergétique. Notre invité sera Cindy Lyotard, la responsable du programme transverse éco-innovation au CEA. Messieurs, encore une fois, merci et à tout de suite pour la suite de l'émission spéciale sur BFM Business.
La France a tout pour réussir. Émission spéciale depuis la 8e conférence globale sur l'efficacité énergétique. Jérôme Tichit.
De retour donc en effet en direct du Palais des Congrès de Versailles pour la suite de cette émission spéciale de La France a tout pour réussir. Nous sommes donc en direct, en duplex de cette conférence globale annuelle. Cette année, elle se tient en France à deux pas du château de Versailles. Et comme promis, donc deux invités pour poursuivre cette émission spéciale avec tout d'abord donc Jean-Baptiste Lucas. Bonjour.
Bonjour.
Directeur général de McPhy. McPhy, une société dont on parle très souvent sur BFM Business. Et vous allez nous parler donc évidemment de son développement et du rôle de l'hydrogène dans une meilleure efficacité énergétique. Et puis à mes côtés également Cindy Lyotard, bonjour, responsable donc transverse éco-innovation au sein du CEA.
Tout à fait.
On va commencer d'un un mot, le CEA, on rappelle ce que c'est et l'importance voilà, de la recherche publique, c'est ce dont on va parler dans cette émission. Rappelez-nous, le CEA, ses missions.
Alors le CEA est un organisme de recherche publique français dont la mission est d'accompagner la souveraineté nationale et européenne. Nos développements sont donc sur la recherche fondamentale et technologique, sur des piliers tels que l'énergie, le numérique, la santé et la défense.
Alors, il y a 9 centres en France, je crois.
Tout à fait, 21 000 employés.
Et beaucoup de brevets, hein,
beaucoup de brevets.
On reparlera donc de tout ça dans quelques petits instants. Mais d'abord, McPhy, qui n'a que 15 ans, et on a l'impression que vous avez une expérience encore plus importante, tellement on parle de vous et tellement on parle de l'hydrogène. Est-ce que vous vous considérez comme un précurseur, quelqu'un, vous et l'entreprise, qui a vu loin avant les autres?
Alors, je me garderai de me considérer personnellement comme un précurseur parce que je suis assez récent chez McPhy.
Absolument, c'est pour ça que je parlais de l'ensemble de l'entreprise.
Absolument, voilà. Je pense que l'entreprise McPhy a eu et on, je rends hommage aux gens qui l'ont créé et à nos anciens entre guillemets qui ont eu cette clairvoyance et qui ont réussi à lancer des investissements, des décisions, à développer une technologie à l'époque où c'était pas évident et où ils prêchaient quand même un peu dans le désert.
On rappelle votre cœur d'activité. Qu'est-ce que vous produisez chez McPhy?
Donc nous sommes designers et producteurs d'équipements de production et de distribution d'hydrogène vert. Donc on produit des équipements qu'on appelle des électrolyseurs qui fabriquent de l'hydrogène sur la base de l'électrolyse de l'eau, ainsi que des unités de distribution d'hydrogène pour les applications de mobilité, donc pour les flottes de véhicules lourds ou légers.
Vous êtes installé donc à la fois en France, en Italie, en Allemagne. Quels sont les effectifs à l'instant T? Je crois qu'il y a beaucoup d'embauches aussi en cours chez McPhy.
Alors, c'est vraiment à l'instant T, parce qu'à l'instant T plus 1, ça sera différent. Hein. Mais on va dire qu'on est un peu plus de 230 personnes aujourd'hui, avec une répartition des effectifs qui est en gros la moitié des effectifs en France et la moitié des effectifs à l'étranger, en Allemagne et en Italie.
Il y a eu beaucoup d'embauches, je crois 85 en 2022. Donc sur un effectif de 230, ça fait quand même...
Absolument. La société a doublé d'effectifs au cours des 18 derniers mois.
Alors si on se concentre sur les activités France, donc vous avez désormais votre siège qui est à Grenoble, alors qu'avant il était dans la Drôme.
Ça, la Drôme, absolument.
C'était un des changements fondamentaux de l'année 2022, hein, je crois.
Absolument. C'est un changement qui est lié à la fois à la nécessité de regrouper nos équipes françaises, qui étaient pour partie déjà implantée à Grenoble, et à la nécessité de donner une dimension industrielle à notre site de production, ce qui était malheureusement pas possible à la mode Fanja, et ce que Grenoble nous a permis de faire, puisqu'on a un bâtiment de 4000 m² qui nous permet donc d'avoir une assise industrielle à Grenoble.
Donc ça c'est 2022, 2024 c'est pas si loin que ça. Gros projet qui a aussi été annoncé il y a quelques mois, c'est la Giga Factory qui sera à Belfort, et là c'est aussi un axe de développement majeur pour l'entreprise McPhy.
Absolument, c'est un axe très important, donc dans le cadre du PIEC, hein, donc de ce programme de financement européen.
Encore le PIEC, on en parlait avec nos invités
voilà,
précédents.
Qui est vraiment un levier de changement industriel, et je pense qu'il faut le saluer là, aussi le volontarisme de la puissance publique dans ce domaine, qui permet d'accélérer des décisions d'investissement, notamment cette décision à Belfort. Et maintenant, on est au-delà de la décision, puisque les travaux sont bien avancés et que... On prendra possession des lieux à la fin de l'année.
Vous parliez de l'aide de l'État. Je crois que c'est une aide globale de 114 millions d'euros et vous avez déjà reçu près de 30 millions pour lancer les choses.
C'est ça. Hein, voilà. On a reçu un premier versement au mois de novembre de l'année dernière qui nous a permis de lancer les travaux et qui, effectivement, sera suivi d'un jalonnement de paiement en fonction de l'avancement de nos travaux et du développement de la technologie.
Le calendrier sera respecté, je crois, une livraison prévue au premier semestre 2024, ça reste l'actualité.
C'est ça, pour une première famille de produits, on aura un objectif de premier de série, donc de première livraison au premier semestre de l'année prochaine.
Alors nous sommes donc ici à la conférence annuelle globale sur l'efficacité énergétique. Pourquoi êtes-vous là? C'est quoi les messages que vous portez? C'est les messages de McPhy seul? C'est les messages de la filière hydrogène? Quels sont les messages que vous portez sur l'efficacité énergétique?
Je pense que je porte les messages de McPhy et un peu les messages de la filière, hein, puisqu'il y a quand même des enjeux d'une constitution d'une filière industrielle à l'échelle de la France et de l'Europe. Mais effectivement, on veut renforcer les messages autour de l'intégration de l'hydrogène dans cette transition énergétique qui est au cœur des débats aujourd'hui. Et l'hydrogène a une place importante à jouer. C'est pas l'alpha et l'oméga, mais enfin c'est un élément
compte.
Important.
On était au salon Evolution il y a quelques mois.
On l'a vu à Evolution et on voit que la filière et le secteur se structurent à grande vitesse. Et donc on a un rôle important à jouer dans cette transition, que ce soit pour les usages industriels ou les usages de mobilité.
On a beaucoup reproché à l'hydrogène de n'être que de l'hydrogène gris à partir de matières encore trop fossiles, etc. Vous défendez bien sûr l'hydrogène vert. On en est où du ratio? Je crois qu'il est encore largement en défaveur et donc en faveur de l'hydrogène gris encore.
Alors malheureusement, oui, le ratio est encore très largement en faveur de l'hydrogène gris et ça prendra des années avant de réussir à inverser la tendance. Mais ce qui est important, c'est que la prise de conscience est là et que les industriels gros consommateurs d'hydrogène, hein, parce qu'il faut rappeler qu'on consomme déjà près de 10 millions de tonnes d'hydrogène en France, hein, donc c'est pas un gaz marginal, loin s'en faut. Et donc il y a cette prise de conscience qui s'est déjà produite, tant au niveau des industriels que des collectivités. Et donc l'ambition est là d'accélérer cette transition vers l'hydrogène verte à travers donc des scénarios de substitution dans les sites industriels ou sur les flottes de véhicules.
Est-ce que la France est pionnière en la matière? On l'a beaucoup dit ces dernières années, ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont aussi performants dans le déploiement de cette filière?
Alors, je pense que la France fait clairement partie des pionniers, qu'il y a eu, ce qu'on évoquait à l'instant, une certaine clairvoyance et un investissement dans la durée. On n'est pas les seuls, hein. Il faut reconnaître que les Allemands ont aussi mis beaucoup d'argent sur la table en termes de développement d'infrastructures et de soutien aux investissements. Mais la France est quand même bien positionné.
On a beaucoup parlé des problèmes à la fois de sécurité, vous y avez un petit peu répondu. On parlait aussi des prix de production de l'hydrogène. Est-ce que ces deux points sont en amélioration?
Alors, c'est un souci constant, hein. Il est clair que l'objectif numéro un, c'est de développer des systèmes de production et de distribution qui soient les plus sûrs possibles, sachant que on sait distribuer et transporter de l'hydrogène depuis longtemps, hein. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on découvre à l'instant, mais effectivement, il y a une problématique de sécurité à garantir qui est très importante. Et en termes de coûts, c'est tout l'enjeu de la montée en capacité de l'industrialisation, c'est que ce scale-up industriel va nous permettre de réduire les coûts significativement à travers des volumes plus importants.
L'année 2022 et le début 2023 que l'on vient de vivre avec la crise géopolitique, donc la crise du coût de l'énergie, vous, la filière hydrogène, elle vous a pénalisé ou elle vous a servi?
Alors, c'est un peu triste de le dire comme ça, mais elle nous a un peu servi en termes de prise de conscience et d'éclairage un peu brutal sur nos dépendances et la nécessité d'accélérer, et de à la fois en termes de supply chain et en termes de dépendance énergétique. Donc ça a plutôt accéléré des décisions. Oui.
J'aimerais qu'on termine cette émission, je le souhaitais vraiment, en mettant en avant l'importance d'organismes comme le CEA dans justement toutes les évolutions technologiques en matière d'efficacité énergétique. Alors, il n'y a pas que dans ce secteur, mais c'est important, voilà, que la recherche que vous incarnez, cette recherche-là, elle se mette au service aussi de l'industrie, des industriels privés, publics, etc. Et surtout, il y a des passerelles très importantes qui se mettent en place. Et ça, c'est vraiment le rôle du CEA.
Alors oui, en effet, on est tout à fait dans notre mission régalienne, hein, d'accompagner la compétitivité de nos industriels. Et alors, dans le segment particulier de l'efficacité énergétique, si vous voulez, l'efficacité énergétique, c'est un peu notre ADN. Quelque part, on a cette position singulière d'être donc sur une vision intégrée de l'énergie, avec, je dirais, une vision, voilà, d'ensemble, une vue d'ensemble sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, du composant microélectronique ou de production d'énergie tel que le PV ou aussi l'hydrogène énergie, jusqu'au système, en passant par le logiciel. On est même parfois utilisateur de nos propres technologies, avec, par exemple, la maîtrise d'ouvrage de centres de calcul haute performance que l'on exploite. Mm-hmm. Et donc, à ce titre, déjà, ça définit la nécessité qu'on a eue d'améliorer l'efficacité énergétique, et aussi on y a grandement contribué. Là, aujourd'hui, on a tous dans nos téléphones une technologie appelée FDSOI, hein, qui a été inventée dans nos laboratoires, qui a permis d'améliorer les rendements, donc l'efficacité énergétique de 30% des puces, et qui a été transférée à Soitec, par exemple. Et puis dans d'autres domaines, la mobilité électrique, nos technologies de conversion de puissance équipent les nouveaux chargeurs bidirectionnels de Renault.
Et quand vous parlez de transfert, on est sur une chaîne de l'économie, on va parler de l'économie, c'est des transferts qui se payent, qui se monnaient, ou c'est des collaborations qui sont natives et qui permettent ce déploiement des technologies?
Alors, elles sont de tout ordre, mais elles sont quand même, enfin, toujours dans une idée de collaboration. On accompagne l'industrie au travers de tout un tas de mécanismes, et également au travers de projets collaboratifs avec la communauté scientifique et industrielle européenne.
Et vous êtes en charge, vous, du programme Transverse Éco Innovation.
Absolument.
Ça veut dire voilà, que cette notion d'éco, j'imagine qu'évidemment il y a l'écologie, pas que l'économie.
Surtout
l'écologie, elle est importante. Voilà. Et ça veut dire que toutes les réflexions, toutes les recherches, vous les faites sous ce prisme-là maintenant.
Alors, effectivement, bon. Il faut s'en dire que l'efficacité énergétique, on se doit de l'optimiser encore. On a quand même l'ambition d'améliorer d'un facteur 1000 l'efficacité énergétique de nos composants semi-conducteurs. Hein. C'est une proposition que l'on a faite à la communauté scientifique au travers du développement de technologies en rupture. Il est quand même nécessaire de maintenir cet effort. On a par exemple, quand on voit que 90% de l'énergie nécessaire à un calcul tient au transfert de la donnée, on voit l'importance de travailler sur les composants, donc la spintronic, le edge computing avec le calcul proche des données,
voilà, pour qu'il n'y ait pas de consommation d'énergie, voilà.
Absolument. Ouais. Mais aussi, alors c'est bien beau d'avoir un matériel ultra optimisé, si le logiciel que l'on déploie, que l'on compile dessus n'est pas lui-même optimisé, on peut ne rien gagner au final. Donc on développe aussi des solutions logicielles qui sont frugales. Ouais. Par exemple, on travaille sur une blockchain, sur un mécanisme à preuve d'autorité d'une blockchain qui permettrait de réduire d'un facteur 3 la consommation énergétique par rapport aux technologies existantes.
Une toute dernière question, Cindy Lyotard, pardon, sur... Vous me parliez voilà, de la technologie dans nos téléphones portables, etc. Ouais. C'est quoi les prochaines technologies qu'on aura dans notre vie quotidienne qui seront sorties du CEA?
Alors, typiquement, là, je vous décrivais des technologies en rupture. Hein. On peut aller chercher encore au-delà avec le calcul quantique. Ce sont des choses qui sont dans nos laboratoires. Un point quand même important, c'est que... Je reviendrai sur l'éco-innovation pour conclure, mais l'approche doit être systémique. Si on veut gagner, les composants, les logiciels, ok, mais c'est vraiment... qu'à travers une approche systémique qu'on parviendra à vraiment gagner des ordres de grandeur. Et cette approche systémique, au travers de d'expertise donc dans la production, la distribution d'énergie, le refroidissement, on est capable de proposer, il est nécessaire d'optimiser, par exemple avec l'utilisation de jumeaux numériques.
Dont on parle beaucoup sur cette antenne aussi, avec Dassault Systèmes, avec d'autres entreprises.
Il voilà. y en a d'autres également. Alors il y a un projet avec Safran que l'on a mené, Optim Énergie, qui nous a permis de gagner 30 à 50% sur la consommation électrique de certains postes. Donc, si vous voulez, les technologies de demain, elles sont à la fois en rupture dans les composants, mais aussi et surtout dans l'optimisation systémique. Et je vais terminer sur l'éco, parce que je n'ai pas
allez-y.
Bien répondu tout à l'heure.
Allez-y,
mais l'éco-innovation,
allez-y en quelques mots.
C'est vraiment extrêmement important pour faire face au nouveau paradigme d'un monde dans lequel, qui est limité. On s'attache, au-delà de l'efficacité énergétique, à intégrer la sobriété en énergie et en matière dès la conception de nos produits. Et au-delà, on déploie une démarche d'éco-innovation donc pour limiter l'impact environnemental global, net, tout intégré avec externalités positives et négatives sur l'ensemble du cycle de vie de nos produits. Ça, c'est extrêmement important. Et ça véhicule, en fait, si vous voulez, ça, c'est aussi très porteur de sens aux citoyens
pour
qui sommes derrière les chercheurs et pour toute la communauté.
Il nous reste, monsieur, madame, une toute dernière minute. Je vais vous poser une question. On est donc ici en train de parler d'efficacité énergétique. Est-ce que vous êtes confiant sur les objectifs de réduction et d'amélioration de cette efficacité? En quelques mots chacun, Cindy, je vous donne la parole d'abord. Est-ce que vous êtes confiante?
Alors, oui, parce qu'on se doit d'être confiant. On a des solutions à proposer pour travailler sur l'efficacité énergétique. Il ne faudra pas oublier les usages, mais vraiment, aujourd'hui, on est fournisseur de solutions qui peuvent s'intégrer et qui peuvent faire leurs preuves concrètement.
Même question sur la confiance. Est-ce qu'on peut être confiant ici dans cette conférence où on ne parle que de ça cette semaine?
Oui, je pense qu'on peut et on doit être confiant parce que c'est aussi un problème d'attitude et d'état d'esprit. Et donc, il faut promouvoir un état d'esprit confiant et mettre en œuvre des solutions.
Et c'est l'angle, voilà, c'est le thème, c'est le nom de cette émission. La France a tout pour réussir, vous le savez. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de cette émission spéciale réalisée donc ici. On va terminer cette émission avec la rediffusion de l'interview de Jean-Pascal Tricouard. C'est le président du conseil de surveillance de Schneider Electric. Il était tout à l'heure l'invité de Sandra Grandouin dans 90 minutes business.
Est-ce que vous avez concrètement une idée de ce qui va pouvoir se développer dans les années qui viennent, ces projets qui vont être discutés finalement lors de ces journées à Versailles?
Oui, alors déjà vous avez la partie industrie. On a dans cette salle des industriels où des ministres s'occupent de l'industrie, sur lequel les choses sont déjà parties. Parce que si vous êtes industriel en Europe, on va dire que aujourd'hui réduire votre consommation et vos coûts énergétiques, c'est la première condition de votre compétitivité. Et donc, on a vu l'industrie véritablement accélérer dans les 5 dernières années et encore plus dans les 2 dernières années avec la crise énergétique que l'Europe particulièrement traverse et que l'ensemble du monde traverse. Ensuite, il y a l'autre partie de la société que sont les maisons, les bâtiments, les infrastructures de nos villes qui sont aujourd'hui qualifiées par l'Agence internationale de l'énergie comme l'endroit le moins efficace en énergie, le plus émetteur de ce qui nous entoure. Et sur lequel on n'est pas du tout au bon rythme. Je vais essayer d'être très simple. Vous avez par exemple en Europe 75% des bâtiments qui ne sont pas efficaces au niveau énergétique et on les rénove aujourd'hui à la hauteur de 0,5% des bâtiments tous les ans. Ce qui veut dire qu'on aura rénové l'Europe dans 150 ans, ce qui est très très loin de l'objectif de neutralité qu'on s'est fixé pour 2050. Et pour être encore plus pratique, tout ça coûte très cher aux citoyens et coûte très cher à l'environnement parce qu'à chaque fois qu'on achète trop d'énergie, qui en général sont d'énergie fossile, et qu'on l'importe, ça coûte à chacun d'entre nous et ça coûte à la balance commerciale de la France. Donc le sujet, c'est vraiment d'utiliser les nouvelles technologies. On a fait des tas de choses bien dans le passé, il faut continuer à les faire. Mais comment est-ce qu'on met en place les nouvelles technologies, la digitalisation, la domotique, les bâtiments intelligents, les villes intelligentes, pour mieux mesurer l'énergie et en réduire l'utilisation? Comment on accélère l'électrification, hein, les pompes à chaleur, les véhicules électriques pour sortir des conditions de prix sur les énergies fossiles? Et puis ensuite, comment on va beaucoup plus vite à faire que chacun d'entre nous puisse produire une partie de son énergie en utilisant des toits solaires, en utilisant des micro-réseaux et en partageant mieux l'énergie au travers des réseaux électriques intelligents, ce qu'on appelle la smart grid en anglais.
Question de Pierre Kupfermann à mes côtés.
Il y a eu toute une polémique en Allemagne avec Robert Habeck sur les pompes à chaleur justement et des règles un peu coercitives pour les citoyens. Est-ce que vous pensez que c'est la coercition qui va permettre d'aller plus vite? Est-ce qu'il faut supprimer tout ce qui n'est pas écologiquement certifié et donc aller vers quasiment de la pompe à chaleur systématique, peut-être même obligatoire dans tout ce qui est nouvellement bâti?
Alors déjà, je voudrais préciser que Schneider Electric ne fait pas de pompe à chaleur, hein, pour vous mettre tout à fait à l'aise avec ma réponse. Je crois qu'il faut d'abord qu'on soit clair là-dessus. Le fait est que on a probablement en face de nous, je dirais, 10 à 30 ans pour inverser la courbe des émissions et enrayer le réchauffement climatique. Donc, après, ça va être une combinaison de mesures d'incentive, de motivation et des règles qui nous permettent d'atteindre l'objectif. Maintenant, mettre en place une pompe à chaleur aujourd'hui pour chacun d'entre nous, c'est une bonne chose à la fois pour l'environnement et à la fois pour votre portefeuille, parce que une pompe à chaleur est 3 à 4 fois plus efficace qu'un système traditionnel de chauffage. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on revienne au bon sens. On sait qu'on a une urgence climatique qui est plus à 30 ans, on sait qu'on a une urgence énergétique qui est fixée par des prix de l'énergie qui vont rester hauts pendant longtemps, et ça on le sait. Et donc le temps de retour sur investissement quand on passe d'un mode fossile à un mode électrique, particulièrement la pompe à chaleur, est évident aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, là aussi, en faisant du en même temps, c'est la première fois en 20 ans qu'on a un élément absolument clair entre l'enjeu, l'ambition à moyen terme d'être net zéro et en même temps de payer moins pour son énergie à titre personnel ou à titre professionnel.
Une dernière question.
La réalité, oui. Et après... Oui, allez-y.
Une dernière question pour revenir à vos activités chez Schneider Electric, multinationale qui possède à la fois des activités industrielles, de distribution, de services, les transports, qui représentent tout cela une source d'émissions importante. Je voulais revenir sur vous, la façon dont vous agissez aujourd'hui chez Schneider Electric, avec vos clients, avec vos fournisseurs, à travers les pays, un petit peu votre action concrète pour terminer.
Alors, je vais prendre un exemple. Je crois que Schneider Electric est l'exemple que aligner sa raison d'être et le développement durable est en fait positif dans tous les domaines. Bien évidemment, au niveau de la durabilité, mais encore plus pour notre développement économique. Regardez ce qui s'est passé chez Schneider. Sur les 20 dernières années, on a multiplié par 4 la taille de Schneider parce que nous avons spécialisé Schneider Electric sur les technologies du futur, la digitalisation, l'électrification, au service du développement durable. Alors maintenant, notre engagement dans la réduction de carbone, elle est multiforme. Il y a d'abord les engagements qu'on a pris chez Schneider sur notre propre scope, notre propre périmètre, de net zéro à l'horizon 2030, de neutralité carbone à 2025, et puis de net zéro en incluant tout le scope, c'est-à-dire nos fournisseurs et nos clients, à l'horizon 2050. Ensuite, on s'est engagé avec nos fournisseurs les plus importants et les plus stratégiques à les aider à réduire leur empreinte carbone par un facteur de 2, divisé par 2 leur empreinte carbone, dans les 5 ans qui viennent. Ensuite, tous les ans, nos solutions technologiques permettent à nos clients d'éliminer 100 millions de tonnes de carbone. Ensuite, nous amenons dans les pays émergents, nous réalisons plus de 50% de notre chiffre d'affaires, nous amenons de l'électricité propre, renouvelable, à 50 millions de personnes en formant 1 million de jeunes à ces milliers, à ces métiers de la nouvelle énergie, des économies, du renouvelable. Et ça permet à ces 1 million de jeunes de créer leur entreprise, etc. Et puis enfin, nous sommes l'une des 3 entreprises au monde dans lesquelles les fonds ESG sont les plus investis parce que nous apportons 70% à 80% de notre revenu dans le domaine des solutions pour le développement durable. Donc moi, je ne fais pas d'arbitrage entre le développement durable et l'économique. Je pense que chacun d'entre nous, on peut revoir notre raison d'être pour aligner les deux. Et en fait, l'alignement des deux a un effet fantastique à la fois sur notre écosystème, les parties prenantes de l'entreprise, et sur le résultat économique de l'entreprise.
Voilà, c'était donc Jean-Pascal Trécoire, le président du conseil de surveillance de Schneider Electric, tout à l'heure dans 90 minutes business avec Sandra Gandoin. Et c'est ainsi que s'achève donc cette édition spéciale de La France a tout pour réussir, plus 90 minutes business consacrée donc à cette conférence annuelle globale ici au Palais des Congrès de Versailles sur l'efficacité énergétique. Il est 14h29, donc la suite de nos programmes sur BFM Business, c'est Nicolas Dos jusqu'à 15h pour une rediffusion des experts. La France a tout pour réussir, vous le savez, on se retrouve en télé, en radio et sur tous nos supports digitaux. Rendez-vous la semaine prochaine, sommaire complètement différent. On parlera des champagnes Nicolas Feuillatte, des chaussettes Brousseau Made in France et d'Okamak spécialisé dans le reconditionnement des appareils Apple. Très bonne journée et à très vite sur BFM Business.
Émission spéciale depuis la 8e conférence globale sur l'efficacité énergétique.